création on air. On air. On air. Creation on air.
Bonsoir. Il a écrit, on nommera Dédale la somme pondérée des distances entre les êtres réels, vécus et rêvés qui forment une personne et les mondes réels qu'elle habite. Ce soir, il entraîne dans son rêve une jeune femme. Dans le monde réel, selon le plus grand nombre, se trouve à Paris la Tour Eiffel. Il interroge, où surgiraient les racines de la Tour Eiffel si elle traversait la Terre, selon nos recherches mathématiques, au fond des océans. À deux, il rêve à voix haute. Et si on inventait une circumnavigation reliant les origines de la Tour Eiffel? Jean de Loisy a lui aussi rêvé cette étrange expédition et rappelé qu'il fallait des navigateurs pour cette exploration des racines de la Tour Eiffel au bout de notre monde. Création on air, qu'un homme trace une ligne et cette ligne devient labyrinthe.
La Terre. Un cercle, en son centre haut. Sur la périphérie, la tour. Et on prolonge son arbalétrier jusqu'à sa racine antipodique.
Racine rêvée de la Tour Eiffel. Récit d'un voyage imaginaire par Estelle de Le Salle et Laurent de Robert.
Situation des origines de la Tour Eiffel par prolongement de ses arbalétriers. Études mathématiques. 1. Position du problème. 2. Calcul trigonométrique. 3. Résultat. Qui tombe à l'eau, d'où une circumnavigation à la voile.
Tout voyage commence par le rêve. Au prélude d'une autre, est un songe mathématique, le dessin d'une hypothèse. De l'autre côté du globe terrestre, où ressortent les piliers nord, sud, est et ouest de la Tour Eiffel.
Position du problème. La Tour Eiffel surgit aux latitudes 48 degrés 51 minutes 30 secondes nord et longitude 2 degrés 17 minutes 40 secondes est. Elle offre une orientation parfaitement cardinale, ses arbalétriers pointant depuis son centre le nord, l'est, le sud, l'ouest exactement. L'inclinaison des montants dans le plan diagonal est donnée par l'arc tangente du rapport du différentiel de diagonale entre le sol et le premier étage et la hauteur de ce même étage, d'où un angle θ de 54 degrés 35 minutes 25 secondes. Le complémentaire de cet angle, pi sur 2 moins θ, donne l'angle formé par les montants de la tour et un axe imaginaire qui la relie au centre de la Terre. Par report de cet angle et calcul trigonométrique, on obtient sur la même longitude que la tour deux latitudes indiquant les origines sud et nord. Lambda sud égale 2θ moins lambda de la tour, 60 degrés, 19 minutes, 22 secondes sud.
Au large de l'île Bouvet.
Lambda nord égale pi moins 2θ moins lambda de la tour, 21 degrés, 57 minutes, 38 secondes nord.
Au large d'Hawaï.
Thank you.
La société qui exploite la tour Eiffel, elle ne fait que ça. Elle ne fait que ça.
Le calcul des racines est et ouest est plus délicat et requiert des éléments de trigonométrie sphérique. En particulier la loi des sinus, avec sin alpha sur sin A égale sin bêta sur sin B égale. On aboutit en quelques lignes à ces résultats, ancrés sur une même latitude de moins 14 degrés 19 minutes 18 secondes, pour l'un, longitude de 105 degrés 10 minutes 50 secondes est,
au large de Java.
Pour l'autre, de 100 degrés 35 minutes 30 secondes ouest.
Au large de l'île de Pâques.
Ainsi, tous les résultats tombent à l'eau. À l'est, dans l'océan Indien, au sud, dans l'Atlantique austral, à l'ouest, dans le Pacifique sud, au nord, dans le Pacifique nord. Les quatre origines de la tour Eiffel sont donc à chercher au large de Java, de Bouvet, de l'île de Pâques et d'Hawaï, et dessinent ainsi une possible circumnavigation afin de ravir ses racines imaginaires.
Entre métal, mer, abysse et centre de la Terre, les calculs nous projettent dans une odyssée aux couleurs des aventures de Jules Verne.
Le voyage sur la Tour Eiffel, en fait, au début, ça a été une histoire d'un mathématicien, je crois.
Quatre marins. Pour quatre points en mer. Yvon Fauconnier, Titouan Lamazou, Florence Artaud, Eugène Riguidel.
Bon, et après, je suis retourné voir la tour Eiffel, j'ai vu que le galbe de ses pieds, effectivement, portait à un écartement propice à des points. Intéressant en face, quoi, de l'autre côté de la Terre et tout ça, et du coup, ça me semble une bonne idée, effectivement.
Racine ouest, 14 degrés, 19 minutes, 18 secondes sud, 100 degrés, 35 minutes. 30 secondes ouest. Pacifique sud.
J'ai choisi, parce que j'étais le plus vieux de l'assistance ce jour-là, et qu'il y avait 4 points, et que je me suis permis de dire, oh ben moi j'irais bien à l'île de Pâques, parce que en fait c'est un rêve que j'ai depuis très très longtemps, d'aller à l'île de Pâques. Ça faisait partie d'un concept que j'ai émis à un moment donné et qui n'a pas abouti, c'était de faire le voyage du XXe siècle sur les traces de la Pérouse. Ce que je voulais, c'était faire un trimaran de 45 mètres, un voilier, pour aller aux mêmes endroits que les humanistes du XVIIIe. Et eux, ils sont restés 24 heures, la Pérouse et la boussole et l'astrolabe, les deux bateaux de la Pérouse, sont restés 24 heures à l'île de Pâques. Et donc, moi, j'ai toujours été fasciné par les statues de l'île de Pâques, comme par les menhirs. C'est pour ça que ça m'est venu tout naturellement quand j'ai vu que les points des pieds de la tour Eiffel arrivaient, pour l'un, en tous les cas, pas loin de l'île de Pâques.
Racine sud. 60 degrés, 19 minutes, 22 secondes. Sud, 2 degrés, 17 minutes, 40 secondes, est. Atlantique sud.
Bouvet, je connais pas, hein. Donc on peut y aller quand tu veux.
Racine est, 14 degrés, 19 minutes, 18 secondes, sud. 105 degrés, 10 minutes, 50 secondes, est. Océan Indien.
Ce qu'on trouve là, mais il n'y a rien là, je suppose, absolument rien. Les pirates sont même de l'autre côté. Il n'y a même pas de pirates dans les personnes.
Racine nord. 21 degrés. 57 minutes. 38 secondes nord. 177 degrés. 42 minutes. 20 secondes ouest.
Attention.
Pacifique nord.
Les racines peuvent être supérieures de 40% au vent moyen et les vagues maximales atteindre deux fois la hauteur significative. Pas d'avis.
Nous sommes partis à leur rencontre, avec, pour support de narration, la démonstration mathématique, une carte maritime des vents et des courants, et quatre épingles, pour situer les racines imaginaires. Nous les avons invités à rêver cette traversée dans un endroit qui leur était intime. Pour Yvon Fauconnier, chez lui en Bretagne, à quelques pas de la mer où est amarré son bateau. Pour Eugène Riguidel, dans la capitainerie de l'Armor Baden, proche de la Rieuse, alors en cale sèche. Pour Titouan Lamazou, dans son atelier à Paris, entouré de son travail et des plans de son bateau-atelier.
Si on fait l'hypothèse que c'est un seul bateau qui part et qui rallie les quatre points en changeant de capitaine,
ouais.
J'aimerais qu'on prenne la carte et que vous nous disiez, partant depuis le pied de la Tour Eiffel,
ah, oui.
Quelle devrait être la route? On peut prendre la carte?
Ben ça, il faut regarder alors de plus près. Poser sur un truc qui va la tenir. Alors, si on part d'Europe, ben, il va falloir descendre plein sud pour profiter à partir du Brésil des vents portants et passer pas loin des sandwichs de la Géorgie du Sud là, pour descendre bien plus bas que les îles de Tristan d'Acuna et aller chercher ce point qui est très sud et puis remonter ensuite vers le sud de Java, là, Sumatra, Java et au large de l'Australie et puis passer le détroit de Torres qui est malheureusement à l'envers, en général il vaut mieux le passer dans l'autre sens, mais passer le détroit de Torres, les îles Salomon et puis remonter vers Hawaï. Et puis de Hawaï, eh ben on va redescendre. Alors là, ça sera peut-être un peu plus compliqué, mais redescendre vers l'île de Pâques pour finir au canal de Panama. Et là, c'est vrai que les conditions sont un peu dures. Passer Panama pour rallier les Antilles françaises, etc. En général, les alizés sont sévères dans la région au large de la Colombie. Mais bon, après tout ce périple, on peut peut-être se permettre d'y aller un peu fort là-dedans, mais bon. Sinon, on peut le faire à l'envers aussi, hein. Il n'y a pas de problème.
C'est-à-dire ?
Et bien, à ce moment-là, on passe Panama en partant de la France, des Antilles françaises, Panama, l'île de Pâques, on remonte sur Hawaï, on va passer le détroit de Torres, on va passer par Java, et là, ça se complique. Et là, ça se complique sérieusement. Il faut passer Cape Town, enfin, les courants sont contre, les vents sont contre. Donc il faut longer Madagascar, descendre le long, très serré, le long de l'Afrique du Sud. Mais là, je le vois mal pour le Sud après, là. Ça se complique très, très sérieusement. Je pense que le premier périple est meilleur.
En traçant la traversée avec leurs doigts sur notre carte, la pilote charte de l'amiral Boyle Somerville, il nous raconte les voies qu'il prendrait afin de ravir ces quatre points perdus en plein milieu des mers.
En fait, l'océan, c'est une flaque. C'est juste une flaque. Les points culminants, enfin, les abysses, c'est 9000 mètres ou 10000 mètres, ou je ne sais pas trop, c'est assez rare. En général, c'est 3 km, pas plus, hein, de fond. Donc c'est une flaque. Notre espace vital, poisson compris, c'est 3 km en dessous et 5 km en dessus. C'est très peu, hein. Donc il s'agirait de préserver ces choses-là.
Au sortir de la Seine, nous nous dirigerons vers les côtes bretonnes, puis mettrons cap au sud pour embrasser la terre par l'est.
Quand on part de Bretagne, on passe du côté de Canaries ou de Madère, ça dépend, enfin voilà, Canaries. Ensuite, les îles du Cap-Vert. La Pérouse, quand il est parti de Brest, lui, il était parti, il s'est arrêté aux Canaries pour ravitailler en pinard. Il y a du bon pinard, Canaries. Ça sort aussi, d'ailleurs. Très, très bon vin. Et donc, en tous les cas, escale technique, acheter de la salade aux Canaries, par exemple, bon, fraîche. Et ensuite, les îles du Cap-Vert, parce que les îles du Cap-Vert, c'est un archipel magnifique aussi, avec une population extraordinaire. Ensuite, il faut traverser, bon, bah, il y a l'équateur, là, c'est très trouble comme situation atmosphérique, hein. Il faut passer ce qu'on appelle le poteau noir, donc, bon, se débrouiller comme on peut. Et ensuite, je pense que, j'aimerais bien, passer du côté du Brésil, là, et il y a une île qui s'appelle Sainte-Catherine, je crois, mais ça, il faudrait que je vérifie, qui est très près de la côte brésilienne, où je ne sais pas pourquoi, je me suis toujours dit que j'aimerais bien m'arrêter là un jour. Mais après, j'écouterai Philippe Poupon, je n'irai surtout pas me coller à la côte d'Amérique du Sud, là, parce que là, il y a des vents violents et des tempêtes terribles. Donc, je continuerai très écarté de la côte, comme ça, pour, par exemple, m'arrêter aux Malouines. Le temps de boire une bière ou je ne sais quoi et de refaire un peu de vivre, sympa, changer de pull parce que ça caille.
Ça veut dire faire tout l'Atlantique du nord au sud, quasiment, enfin 48 nord... 60 ouest, 60 sud, quasiment, hein, c'est énorme, hein, comme parcours déjà. On est 60 sud, le point. Donc 60 sud, y a une dérive d'iceberg qui vient de l'Antarctique, la péninsule de Valdez, etc. C'est souvent entre les 40 et 50e qu'il y a le plus de vent. Après, on retombe dans des phénomènes anticycloniques aussi bien. Les icebergs et les growlers en dérive, etc., qui sont pas trop identifiables, on les voit pas. La nuit, on les voit pas. Hein. On voit les icebergs au radar, mais les growlers, on les voit pas. On peut les éviter parce que c'est dans des zones proches des icebergs en général. Donc on sait à peu près de quel côté ils vont se situer par rapport à un iceberg, par exemple. Mais ça va pas plus loin que ça comme. Démarche. Et puis remonter, ça c'est relativement plus facile de remonter vers Cape Town à ce moment-là, avec des vents de travers. Cape Town, c'est un refuge aussi, hein, parce que c'est quand même un autre bout du monde. La montagne de la Table domine cette histoire-là de façon assez incroyable, avec son nuage permanent qui roule sur le bord de la falaise. Il se régénère en permanence. Ce nuage disparaît en même temps qu'il se crée juste au sommet, à la crête. Là, c'est assez beau une fois qu'on arrive en haut, là.
Ah, si j'étais à Cape Town, j'en profiterais de me balader quand même dans ces endroits et d'aller faire un petit tour de Madagascar, d'aller dans le Mozambique, dans le canal du Mozambique, pas remonter trop haut parce que c'est trop fait de pirates à partir de là, mais peut-être faire ça par le chemin des écoliers, passer par la Réunion et Maurice, plutôt que de reprendre l'orthodromie de Bouvet à Java. Voilà, et puis pourquoi pas s'arrêter dans ces coins-là, le Sri Lanka que je ne connais pas, redescendre les îles, et surtout un coin que j'aimerais bien voir, où mon grand-père a vécu une grande partie de sa vie, un endroit que je ne connais pas, pas plus que mon grand-père que j'ai jamais vu, mais qui est ce qu'on appelait l'Indochine. Donc on descend par la Birmanie, la Thaïlande et la Malaisie. Et puis peut-être aborder du coup ce point en ayant déjà abordé l'Indonésie. C'est lié à Conrad. C'était à la fin des années 80, 1880, c'est-à-dire en même temps qu'était construite la Tour Eiffel, exactement. D'aller retrouver ce point virtuel au sud de Sumatra, ce serait un prétexte pour aller essayer de retrouver les lieux où Conrad a situé ses histoires dans ces régions de Bornéo, du Sulawesi. Et une des nouvelles qui m'émeut le plus de Conrad, c'est Freya des Sept Îles. Je ne sais pas si Freya a existé, mais en tout cas, ça serait un prétexte pour aller retrouver ces sept îles dans la région de Bornéo, donc un peu plus au nord de ce point. Et pourquoi pas, je pense que c'est la motivation de la plupart des navigateurs, enfin, que j'ai connus, c'est d'aller voir ce qu'il y avait derrière l'horizon et d'éventuellement trouver derrière les horizons la femme qui correspond à l'idée qu'on se fait de la femme de sa vie.
Avant qu'elle ne nous quitte, j'ai eu la joie de m'entretenir brièvement avec Florence Artaud. Amusée par le projet qui était, selon ses dires, une belle occasion pour partir à l'aventure avec ses amis, elle avait choisi la racine nord, au large d'Hawaï. Elle lui restera dédiée.
Florence, je pense que bien malin, qui aurait pu prédire en tout cas, de son vivant, quelle route elle choisirait. Mais je pense que c'était une personne quand même qui avait le charme de l'inattendu.
J'adore le coup de zoom, de démarrer de la hauteur de satellite où on voit la Terre entière. Après, on se fait une descente. Bon, on ne voit plus que l'Atlantique, par exemple. Mais doucement, en deux ou trois photos, quand même, le temps de voir quand même l'Amérique du Sud, l'Afrique, tout ça. Et hop, on arrive dans l'océan. Bon, là, après, pour l'île de Pâques, d'avoir un point précis, waypoint. Et donc, au fur et à mesure, la distance s'affiche entre l'endroit où est le bateau et l'endroit où il doit aller. Et donc, après, de calculer, je n'ai plus que, mettons, 1000 milles à faire. 1000 milles, avec un bateau comme ça, je vais mettre peut-être 2-3 jours, quoi. Allez, 2-3 jours. Je suis à 2-3 jours de l'arrivée à l'île de Pâques. Puis tout d'un coup, l'île de Pâques n'est plus qu'à 100 milles. Il faut que je surveille parce qu'à un moment donné, elle va apparaître. Je ne me rappelle plus de l'altitude de l'île de Pâques, mais je crois que c'est assez conséquent. Donc on doit la voir de loin. Et puis à un moment donné, terre, ça y est, voilà l'île de Pâques, je la vois, mais en même temps, je la vois déjà sur ma télé, je sais qu'il ne reste plus que je ne sais pas combien, 30 ou 40 000, etc. Et puis à un moment donné, où est-ce que je vais me mettre, quel vent il y a? Bon, je vais me mettre sous le vent de l'île, je vais aller dans son est, par exemple, je dis ça, ce sera vérifié, évidemment. Ou dans son sud. J'aime bien aussi aller dans le sud des choses quand le vent est nord. Et sur mon livre de bord, je marquerai éventuellement cap au 90, distance 20 000 à parcourir, visibilité bonne, je ne vois pas les statues, mais je vois déjà les montagnes. Et à un moment donné, plouf, mouille l'ancre, ça y est, on est rendu, on n'est plus qu'à 100 mètres du rivage. Il faut faire attention parce que la mer brise, il faut rester surveillé si l'ancre a bien tenu. Et quoi, je ne sais même pas si à 100 mètres c'est possible, parce que ça tombe à pic. Là, il faut vraiment que je redemande au pilote charte de m'aider pour un atterrissage, parce que atterrir, c'est quand même super important, d'arriver au bon moment, de la bonne façon, au bon endroit, avant de mettre une annexe quelconque. Pas quelconque, la bonne annexe qui va bien du bateau, pour accoster l'île de Pâques et aller essayer d'aller boire une bière avec les habitants pour voir la tronche qu'ils ont.
Moi, j'y vais pas à leur trimaran, hein, dans le sud. Là.
Ah ouais.
Ah non.
Ah bon.
Tu rigoles. 60 degrés sud.
Mais tu voulais pas faire le trophée Jules Verne à un moment donné en trimaran.
J'avais pas 72 ans. C'est pas pareil. Hein.
C'est pour ça qu'il est important de le faire le plus vite possible.
Oui, ça on est d'accord là-dessus. Faut pas perdre de temps.
Non, parce que j'ai dit ça, moi, si c'est le bateau de Titouan, à un moment donné, je dis, ah merde, je pensais le faire avec un... Oui, mais tu vas l'apprendre, t'as
peut-être
pas...
Peut-être qu'il va faire un coffre-fort à double coque, j'en sais rien, moi.
Ah, mais je sais pas, justement.
Mais voilà.
Je sais pas.
Il y a de la glace de nouveau là-bas, là, tu vois, c'est ça le problème.
Ah, c'est ça.
Ah oui, il y a de la glace.
Ah, ouais. Bon,
mais alors, tu vas faire le début et la fin, ou tu...
Non, moi, je vais à l'île de Pâques, normalement.
Oui, oui.
Oui, alors donc, oui, le bien, quoi, c'est bien. Mais toi, tu as choisi un point...
Un point dur.
Ouais, un point dur.
Ouais, ouais. Bah oui, si tu veux.
Et alors, le truc, c'est que moi, je veux aller voir les Kanaks, après. Donc, oui. De l'île de Pâques, après, normalement, je pourrais aller jusqu'en Nouvelle-Calédonie, là. Parce qu'il faudrait que les quatre marins, d'ailleurs, ramènent chacun un morceau du retour, non ?
Un morceau
du bateau, pour ramener le bateau.
Oui,
parce que si ça se termine à l'île de Pâques, une fois que je suis à l'île de Pâques, je vais en Nouvelle-Calédonie, et puis là, je peux laisser à quelqu'un...
Oui, mais ça, c'est tes aventures personnelles, Eugène. Ah bon, le bateau, il doit revenir à la Tour Eiffel, normalement, ou presque.
Bah oui, mais par où il revient ?
Bah, le canal de Panama, c'est formidable.
Ah bon, vous voulez faire ça, vous ?
Bah oui.
Oh, non.
C'est beau, hein, le canal de Panama.
Ah oui, je sais bien que c'est
beau. Bah oui, tu l'as fait.
Oui, je sais bien.
Bon, voilà.
Ah non, mais moi, je trouvais ça... Parce que moi, il faut que j'aille quand même... En 18, il faut que j'aille chez les Kanaks, quand même. Il faut que je trouve un autre bateau.
Le Pacifique, c'est grand. Je peux faire du stop à l'île de Pâques, je sais pas.
Non, parce que de l'île de Pâques, je voyais qu'une solution, c'est que le bateau soit ramené par le détroit de Torres et...
Ah, voilà. Faire la boucle à l'envers.
Bah oui.
Waouh.
Donc à faire. Et Panama, tu vois.
C'est bien Panama.
Oui, c'est bien.
Ce triangle rectangle, issu de trois points, T, la tour Eiffel, O, le centre de la Terre, et H, sa projection orthogonale sur le prolongement de l'arbalétrier. On aura au centre de la figure l'angle θ, celui de l'inclinaison dans le plan diagonal qui revient. Et TH sera égal au sinus de θ multiplié par le rayon de la Terre, OT. Ainsi, la racine rêvée aura pour mesure 2 fois le sinus de θ multiplié par le rayon de la Terre. Ce qui donne un résultat de 10 380 km. Or, la vitesse d'un ascenseur est de 2 mètres secondes. Ce qui donne... multiplié par 3600 secondes, 7,2 km/h. Ainsi, pour ravir un ascenseur l'origine de la tour, il nous faudra 10 380 divisé par 7,2, c'est-à-dire 1441 heures divisé par 24, à peu près 60 jours.
Il est plus long de traverser la Terre en ascenseur que d'en faire son tour à la voile.
Partir des pieds de la Tour Eiffel. Partir en au moteur, évidemment, hein, parce qu'il faut passer sous les ponts jusqu'à Tancarville. Et puis on va remater à partir de Rouen, on peut mater pour sortir de la Seine. Et puis là, c'est la Manche, d'abord, le golfe de Gascogne, et puis l'Atlantique Nord, l'Atlantique Sud.
D'abord, en dehors du rêve, il y a la réalité. La réalité, elle fait que tout d'un coup, le vent diminue, donc ça devient plus confortable. Il arrête de, les embruns arrêtent de vous asperger. Tout d'un coup, hop, une étoile apparaît. La mer se calme. Donc la réalité, déjà, est un rêve éveillé, magnifique. Mais en plus, alors moi, ça m'arrivait de rester des heures et des heures à la barre, parce qu'il fallait pilote automatique en panne, ou gagner, essayer de gagner, et tout ça. D'ailleurs, moi, je dors que le jour quand je navigue en solitaire, et la nuit, je barre. Par exemple, si on dort la nuit, quand on se réveille, en plus, on arrive sur le pont, en plus, on voit rien, quoi, pas grand-chose. Alors que si on est la nuit tout le temps, on s'accoutume à l'obscurité, on continue à voir, on est tout le temps en alerte, on peut réagir plus vite, et quand on dort le jour, ben, c'est vrai, on est un peu en suquet en se réveillant, mais au moins on voit clair.
Barrer la nuit, c'est pas inintéressant non plus, parce qu'on n'a pas la perception exacte des vagues, de la mer, et mais par contre, on a les mouvements du bateau, le vent, on l'a toujours dans les oreilles. On arrive à barrer sans même le compas, hein, à la limite, juste avec les effets du vent sur la tête et avec le sens des vagues, etc. Donc, tout ça, ça fait être vigilant un peu plus, évidemment, et... On peut rêver un petit peu, mais à condition d'avoir un bon pilote automatique. Sinon, si on barre, là, c'est là qu'on voit les bons barreurs, déjà. Ceux qui maintiennent le bateau, le cap, et qui laissent les copains dormir. Sinon, on se lève vite de sa banette pour dire qu'est-ce qui se passe et tout. Moi, ça m'énerve. Quand il y a un mauvais barreur, ça m'énerve. Et la nuit, c'est pire. Mais sinon, les spectacles avec un peu de lune, etc., sur les vagues, avec du vent, c'est magnifique. C'est beau.
Il y a des choses fantastiques qui se passent quand on arrive à des états de fatigue et de ou de bien-être, quand le rayon de soleil apparaît tout d'un coup, quand il a fait froid toute la nuit, puis tout d'un coup le jour se lève, le soleil se lève, la chaleur commence à vous envahir. D'ailleurs, souvent on sombre dans un sommeil réparateur, même à la barre, on somnole et tout ça, mais enfin bon, voilà. Mais, alors moi, quand je traversais par exemple l'Atlantique, je rêvais tout d'un coup d'être accueilli par une sirène, quoi, une femme qui m'aurait accueilli. Je la voyais, tout ça, quoi, c'était un rêve d'absolu bonheur.
Je voudrais que mon bateau soit une portion de terre, en fait. Et ce que je voudrais, c'est être sédentaire sur un îlot qui bouge.
J'ai vu des endroits où la mer était jaune, où la mer est rouge, vert, bleu, évidemment. Noir, ça c'est Florence Artaud qui a écrit « Ce soir, la mer était noire ». Donc, arc-en-ciel, voilà, oui. La mer est blanche d'écume, quelquefois. Moi, ce que je préfère, c'est le bleu, là, qu'on a dans le golfe du Morbihan, au Glénan aussi, les fonds de... La mer au Glénan est magnifique. Il y a beaucoup d'endroits où on est émerveillé rien que par ça, quoi. C'est vrai.
Une belle mer, ça peut être une grosse mer organisée, qui porte bien, où le bateau souffre pas, et ça va vite, ça descend bien les vagues, Ça peut être très harmonieux, en fait. Hein. C'est pas toujours le cas, parce que l'océan Indien est beaucoup plus dur, en général. La mer est plus confuse, plus croisée, moins organisée. Mais dans le Pacifique Sud, par exemple, c'est vraiment intéressant. C'est bien. On fait des belles tranches de navigation.
Les mers du Sud, c'est une suite de dépressions qui font le tour de la Terre en permanence. Il fait quand même pas très chaud, il fait nuit la plupart du temps, après 6 mois de l'année. Le reste du temps, c'est des tempêtes qui succèdent à des tempêtes. Il y a des choses absolument magnifiques. C'est cette limpidité, en l'occurrence pélagique, là, où il y a une profondeur de champ considérable à cause de la pureté et de la froideur de l'air qu'on ne trouve pas ailleurs. Bon, c'est des moments forts, c'est des océans forts.
Il y a un courant qu'on connaît bien sur l'Atlantique, c'est le Gulf Stream. Et le Gulf Stream, il peut être dangereux à partir du moment où il rencontre le courant du Labrador. Et ça crée quasiment une frontière qui est visible et dangereuse par mauvais temps. Et ça peut créer des vagues monstrueuses dans cette partie de confrontation avec le Labrador. Il y a des bateaux qui ont chaviré à cet endroit-là précisément à cause de ça, parce que les vagues sont tellement désorganisées qu'on navigue plus correctement, quoi. Et il se passe le même phénomène au large entre Durban et le Cape Town, et pour Elizabeth au sud de l'Afrique du Sud, avec le courant des aiguilles qui descend de Madagascar, là par le canal de Mozambique. Et quand il y a des grands vents de sud-ouest qui se combinent contre ce courant, là on a des vagues monstrueuses également. Ce qu'ils appellent des rogue waves en anglais, et qui ont déjà cassé des gros bateaux. Il y a des pétroliers qui se sont cassés en deux dans des endroits comme ça. J'y suis passé deux fois, une fois en longeant la côte en remontant vers Durban pour aller à Madagascar, et une autre fois en contournant le banc des aiguilles, justement. Et c'est vraiment c'est un phénomène très 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 puissant et large, quoi. On arrive à être freiné de quasiment la moitié de la vitesse de notre bateau contre le courant, quoi. Alors qu'on est on n'est pas en vue des côtes, on est loin, 300 milles.
Je pense que quand on est en mer, on est en dehors de toute angoisse et de toute préoccupation. Donc on est comme éternel, quoi. Et chaque instant est une éternité. Il faut être ultra vivant, quoi, pour suivre le fil de l'affaire. C'est comme un rêve qui se déroule. C'est 24 heures sur 24. Déjà, il n'y a pas de notion de... On oublie quelle journée. En bateau, il y a même plus de calendrier. Ben, on est obligé peut-être de se discipliner pour savoir quel jour on est, s'il faut que je téléphone à quelqu'un ou quoi, parce que maintenant il y a les téléphones. Mais moi, j'ai commencé à naviguer. On avait le sextant, on n'avait pas de téléphone, on n'avait rien. On était une cellule lancée sur l'océan, autosuffisante et autogérée, et on n'a que ce qu'on a. Et dès qu'on laisse tomber quelque chose à l'eau, mince, si c'est un couteau, par exemple, ah merde, mon couteau, j'ai plus mon couteau, c'est terrible. Toute chose a une importance considérable. Et en même temps, on peut être ultra léger et frivole, quoi, sur un bateau. Je sais pas si c'est pas des trucs complètement contradictoires, je suis en train de dire, mais c'est pourtant ce que je ressens.
Le temps de la navigation, en fait, moi, c'est un moment privilégié, mais qui n'est pas pour le plaisir d'être en mer. Ça peut être le plaisir d'être tout seul et de ne pas être emmerdé, ça c'est une chose, mais c'est un moment qui est rare, où on fait quelque chose, puisque on si on veut aller à Java, ben, il faut suivre une route. Et pendant cette route, c'est quand même le bateau qui travaille les trois quarts du temps tout seul, si ce n'est pas 99% du temps tout seul, surtout si on n'est pas pressé. Et donc pendant ce temps-là, c'est le temps du voyage. Kessel en a très bien parlé de ça. Lui, il aimait bien le point d'arrivée, donc le but du voyage. Mais il aimait surtout le temps du voyage.
Je ne connais pas un meilleur salon de lecture qu'un bateau. J'ai fait beaucoup de convoyages dans ma vie, j'en fais encore de temps en temps. Et quand on a fini son quart, qu'on passe le commandement ou la surveillance à quelqu'un d'autre, alors à ce moment-là, on rejoint sa bannette et là, on peut lire pendant des heures. Et en plus, le bateau, c'est une cellule indépendante et ultra sécurisante parce que c'est un peu comme les tumulus aussi dans les menhirs ou les allées coudées où le danger ne peut venir que difficilement quoi. Hein, si vous êtes au milieu de l'océan, si quelqu'un vous cherche des noix, il faut quand même qu'il vienne là aussi. Hein. Ça m'est arrivé moi d'être un peu démoralisé, fatigué, je ne sais quoi, et d'aller en pleine nuit dans une allée coudée de 24 mètres qui est à Logmariaquer. C'est une installation mégalithique absolument merveilleuse qui a été faite par les préceltes, et d'y aller douloureusement parce qu'il faut baisser la tête, il y a des flaques d'eau, j'avais peur de marcher sur un serpent ou sur quelqu'un qui serait couché là, je ne sais quoi. Enfin, j'étais pas tranquille, j'y allais tout doucement en m'appuyant sur les menhirs, dans la noire absolue évidemment, hein. Mais tout d'un coup, en arrivant au fond, alors le fond, c'est une pièce circulaire où on peut se redresser. Et là, je me suis redressé et en même temps, j'ai été envahi par les ondes bénéfiques des installations mégalithiques. Je me suis ressenti surpuissant et je me suis dit, si quelqu'un m'en veut, eh ben, il va falloir qu'il arrive accroupi là, par ce petit trou aussi, comme moi. Et donc, tout d'un coup, eh ben, c'est ça le bateau aussi. C'est le bateau, c'est une cellule ultra rassurante, quoi. C'est un peu, il y en a qui disent que c'est aussi, on retrouve les sensations des fœtus dans le ventre de leur mère et tout ça. Enfin, probablement, quoi. Ce sont des éléments extrêmement doux, confortables, silencieux. Je parle des voiliers, encore une fois. Hein. Je suis un peu dur avec les bidets mécaniques et les, enfin, je voudrais pas dire de mal. Non, c'est vrai que les hommes ont quand même inventé des merveilleuses machines. Hein. Enfin, bon. Donc, moi, c'est la voile, quoi.
Alors ça, c'est un livre que j'ai conservé jusqu'à aujourd'hui. Quand on me dit ton livre préféré, c'est un auteur brésilien qui s'appelle João Guimarães Rosa. Et le livre s'appelle « Grande et certain en Veredas ». Et ce livre, je l'avais perdu. Et lors de la première course autour du monde, le BOC qui faisait escale à Rio, je suis allé à la bibliothèque de l'Alliance française. Et ils avaient la traduction de Diadorim, les œuvres brésiliennes traduites en français. J'étais un honnête homme, je ne l'ai pas piqué. Entièrement photocopié le bouquin. Et je l'ai amené sur un bateau, dernière escale, c'était arrivé à Newport. Pendant la traversée, il y a une tradition. Quand on aborde un nouvel océan, qu'on passe l'équateur, on fait une offrande à Neptune. Et en général, moi je suis superstitieux quand j'en ai besoin, c'est-à-dire je l'étais quand j'étais navigateur solitaire. Donc toujours on préparait des petites bouteilles de champagne, tout simplement, pour trinquer avec Neptune au passage de la ligne. Et là je fouille le bateau, je ne trouve pas la bouteille de champagne. Normalement mes préparateurs doivent mettre une bouteille de champagne. Donc j'appelle à la BLU, Et ils me disent, on voulait pas te le dire, mais on s'est rendu compte qu'on les a laissés sur le quai, les bouteilles. On me dit, mais qu'est-ce que je vais pouvoir faire comme cadeau à Neptune? Un truc auquel je tiens, quand même. Pas une poignée de clous. Et donc, je me dis, bah ouais, il y a Diadorim, mon paquet de photocopies. Alors, je me suis mis à l'arrière du bateau et j'ai envoyé toutes les pages de Diadorim à Neptune. Et voilà. C'est l'histoire de ce livre que j'avais lu en mer et que j'ai rendu à la mer.
Il y a trois types d'hommes, les vivants, les morts et ceux qui vont sur la mer.
À partir du moment où les masses d'air montent en altitude, elles génèrent des pluies et des orages et des nuages très, très denses et avec des précipitations énormes. Quoi. Il peut faire d'un seul coup le nuage, il assombrit complètement la zone. Quoi. Donc on se retrouve sous les nuages noirs. Voilà, c'est un peu ça, poteau noir. Il fait tellement chaud que c'est difficilement supportable. Hein. C'est l'équateur. L'équateur qui se déplace géographiquement du tropique du Cancer au tropique du Capricorne, selon la saison. C'est une histoire de déclinaison solaire sur 27 degrés ou un truc comme ça. Ça bouge beaucoup. Hein, en 24 heures, les choses évoluent très vite quoi, dans ces zones-là.
Il y a aussi, ça m'est arrivé, je suis allé, qu'est-ce que j'allais faire là déjà? Ah oui, j'allais voir les Zapatistes au Mexique. D'ailleurs, on s'est fait arraisonner au large de Porto Madero, c'est le premier port. Quand on longe le Guatemala, et à un moment donné, on va aller traverser Panama, on remonte le Pacifique, et je voulais aller voir au Chiapas, voir les Zapatistes, bon, à la voile. Et donc, j'avais des non-marins, j'étais le seul marin à bord. Et on a été pris dans une tempête tropicale pendant 2 ou 3 jours, là, et j'étais obligé de rester à la barre, tout ça. Et je me rappelle, quelquefois en bateau, quand on a peur, quand il fait mauvais, ou quand on a froid, on se crispe. Et plus on se crispe, plus on aggrave l'angoisse ou le froid et tout ça. Et un des remèdes que moi j'ai trouvé, en tous les cas, c'est de chanter. En plus, on s'en fout, on est tout seul, enfin, quand on est en solitaire, donc on peut même éventuellement chanter faux, sans trop casser les pieds à qui que ce soit. Et les nuages, alors, quelquefois, ils restent là, mais on n'en a rien à foutre, après, les nuages. Ils sont là. Hein. Non, mais c'est vrai, ça décontracte, ça relance la circulation, c'est le souffle, c'est un super... une super combine. Je le dis pour ceux qui vont en mer, si un jour ils sont crispés, mais ils n'ont qu'à chanter et ça va les décrisper.
Aujourd'hui, le moindre souffle de vent sur un bateau, ça s'appelle la raideur du bateau. Les bateaux sont absolument totalement raides. Un soupir Et bien, sur la voile, rien ne se déforme. Elle est en carbone, le mât est en carbone, les haubans sont en carbone, la coque est en carbone. C'est-à-dire, rien ne se déforme. Le moindre souffle de vent arrive sur le bateau, et le bateau y avance. Il m'est arrivé en course de peindre, mais j'avais trouvé une technique qui était vraiment mal. C'est sur ces bateaux modernes, en carbone, qui sont très très violents, qui vibrent beaucoup. Un truc, je mettais un papier, je mettais un pinceau comme ça, et que je trempais dans l'encre, et c'est le bateau qui faisait le dessin, en fait. Je faisais des petits pollocks, tous les jours. Comme ça. Et j'aurais dû les garder, d'ailleurs. Je l'ai fait de temps en temps, j'aurais dû le faire plus systématiquement. Comme ça, j'aurais eu un tour du monde, 109 pollocks. À l'arrivée, mais ça, je ne l'ai pas fait. C'est 4.
Quand les voiles claquent, en général, c'est qu'elles sont mal réglées. Donc, il vaut mieux qu'elles claquent pas. En adéquation avec le bateau, c'est comme c'est un peu comme avec un cheval, hein. C'est pareil, ça répond pas, il faut s'en servir bien, il faut l'apprendre d'abord, il faut apprendre à s'en servir, et puis et une fois qu'on est à l'aise avec, on peut faire des bonnes choses.
Souvent, quand je vois Philippe Poupon, ça me fait penser à Shackleton ou à Jack London. Ou Shackleton, qui c'est ? Oui, c'est lui qui naviguait avec femmes et enfants, avec des pianos à bord de leur bateau. C'est ça le côté extraordinaire de la navigation, c'est qu'on on part à l'autre bout du monde avec sa maison, sa cheminée. Moi, je rêverais d'avoir, d'ailleurs, si je vais à l'île de Pâques, je pense que je mettrai une cheminée sur le bateau. Je ne sais pas encore avec quel bateau je vais pouvoir aller là-bas. Je pense que Titouan Lamazou, lui, va réaliser son rêve d'atelier. Enfin, je ne sais pas trop, Yvon, s'il a choisi un bateau ou s'il a envie d'un bateau. Moi, j'y serais bien allé en multicoque. J'adore le multicoque. Je pense que c'est là où je dors le mieux, par exemple. Déjà, pour couler un multicoque, mettons un trimaran, c'est ce que je préfère dans les multicoques, c'est les trimarans. Eh bien, il faut casser toutes les coques, quoi, parce que c'est quand même une angoisse de se retrouver à l'eau, par exemple, un bateau. Moi, je connais des gens, leur bateau a pris de l'eau, et bien quand le bateau est envahi par l'eau, le lest entraîne tout le bazar au fond. Tandis qu'en multicoque, il faudrait casser toutes les coques, les bras de liaison. Mon dernier trimaran, donc, il faisait 27 mètres, il faisait 0,8 de densité, donc n'importe quel morceau de ce bateau flottait. C'est là, on dort bien dans ce cas-là, je trouve. C'est une bonne. Donc, je suis pour une cheminée et une bonne cave à bord des bateaux, plus que des réserves de fuel. Je suis pour y aller à la voile. Voilà. C'est un côté mathématique, je pense.
Je rêve d'un bateau qui est un outil, moi, où je puisse travailler à bord. Donc, c'est mon bateau atelier, mais il ne sera pas prêt avant fin de l'année prochaine. Un bateau que je conçois pour passer quand même les trois quarts du temps au mouillage, voire à quai, mais qui soit capable de faire des routes de cette nature, qui puisse aller un bateau océanique, mais dont la vocation est d'être à l'ancre. Et c'est pas un jeu de mots, hein. Bon, ça fait 20 ans que j'en parle, un projet comme ça, de toute façon, à moins d'un séisme grave, les pieds de la Tour Eiffel, ils vont pas bouger d'ici les prochaines deux décennies. Donc ça pourra se faire.
Cap Sud, parce que je me suis dit que j'y retournerais peut-être un jour avant qu'il soit trop tard. Et avec des copains de préférence. Voilà. Ça peut se produire. Il n'est peut-être pas trop tard.
pointe de Chemoulin, grand sud-ouest de Cabrenet, mer belle, cœur de venue à 25
minutes. Le bulletin sera rediffusé dans quelques minutes.
C'est ultra fluctuant, tout change tout le temps, à tout instant. Et c'est pour ça qu'on s'ennuie jamais et que les marins sont des opportunistes obligatoires, puisque tous les paramètres changent en permanence. L'ordinateur humain est tellement bien fait que ceux qui savent s'en servir arrivent à garder l'équilibre, à choisir le bon cap, aller aux bons endroits, ouais, c'est ça. Non, les marins, c'est quand même une... C'est pour ça que c'est une bonne idée, en fait, de partir de la Tour Eiffel, que des marins partent de la Tour Eiffel et aillent de l'autre côté du globe. Oh, ouais. Qu'est-ce que je pourrais mettre dans une bouteille ? Bon, je sais pas, je pourrais dire que cette bouteille que j'ai vidée moi-même m'a aidé à voyager. J'espère que elle t'aidera à rêver. C'est un petit mot pour celui qui va la trouver, quoi. D'ailleurs, j'avais écrit un texte comme ça un jour. C'était comment c'était déjà moi, ça va me revenir. Je pousse ma barque là où le vent me... Non, ça va me revenir. Ah oui, je pousse ma barque là où le vent me mène. Voilà, c'est ça, c'était ça. Je coupe et je largue les amarres et les chaînes. Je pousse ma barque là où le vent me mène.
Création en air. Les racines rêvées de la Tour Eiffel. Récit d'un voyage imaginaire. Avec Eugène Riguidel, Titouan Lamazou, Yvon Fauconnier. Merci à Florence Artaud d'avoir répondu avec envie à notre invitation au voyage. Exploration musicale, Olivier Mélano. Merci à Lionel Quentin, Philippe Samartis, Éric Lacaza, Guillaume Ledu. Merci à Jean Deloisy, Jean-Yves Langlais, Frédéric Piston, Gaël Flao, Pierre-Marie Bernard, et les ateliers du bout de la cale, qui nous accompagnent dans le glissement du rêve au réel. Coordination, Inès Debrine, Irène Omelianenko, mixage, Philippe Mercher, réalisation, Nathalie Battus, une création proposée par Estelle Delessal et Laurent De Robert.
Demain à 23h, Poésie et ainsi de suite par Manou Farine avec Guillaume Desanges, commissaire de l'exposition Poésie balistique à la Verrière à Bruxelles. Cet été, retrouvez-nous chaque samedi à 21h. Notre premier rendez-vous sera avec un atelier de création radiophonique de Floyd Crouchy et Nathalie Battus, Rien que les eaux. Cap sur les nuits de France Culture avec Philippe Garbi.